VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Claire Morin-Gibourg.
Bienvenue à l'édition du jeudi 3 septembre 2015, à la une ce soir.
Les salafistes armés du Nigeria ont encore fait des victimes au Cameroun. On dénombre au moins 30 morts dans la région de l'extrême nord.
République démocratique du Congo, les acteurs internationaux plaident en faveur d'élections crédibles et transparentes.
Retour ce soir sur le processus électoral en Guinée, où le nombre de candidats à la présidence est passé de 24 en 2010 à 8 cette année.
L'enjeu politique est tel que le nombre de candidatures a été drastiquement rabaissé à 8 contre 24 en 2010. Cela se justifie par deux raisons.
À suivre, l'analyse du juriste Mohamed Camara.
Au Guatemala, le président Otto Pérez est contraint à démissionner 3 jours avant les élections. Il est accusé de corruption.
Nous parlerons encore ce soir de la crise migratoire en Europe avec pour point de mire la gare principale de Budapest en Hongrie.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais tout de suite, le journal.
Au moins 30 morts dans de nouvelles attaques des islamistes nigérians de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun. Précision, Lionel Gaïma.
La localité camerounaise de Kerawa, à la frontière nigériane, a été la cible ce jeudi d'un double attentat suicide. La première explosion visait un marché local et la seconde a eu lieu près d'un camp militaire. Selon des sources locales citées par l'AFP, il y aurait eu au moins 30 morts et une centaine de blessés. Un responsable gouvernemental rapporte de son côté que les deux attaques ont été menées par des femmes. Kerawa a été en février dernier le théâtre de violents affrontements entre les troupes camerounaises et les militants de Boko Haram. Les insurgés mènent de fréquents raids contre des villages proches de la frontière. Ils sont aussi accusés d'être responsables d'une série d'attentats suicides qui avaient fait des dizaines de morts en juillet à Maroua, capitale de l'extrême nord camerounais. Le Cameroun a déployé des milliers de soldats dans la région pour faire face à la situation.
L'armée nigérienne a déclaré avoir gracié et réintégré quelques 3000 soldats accusés d'actes d'insoumission dans la lutte contre les islamistes de Boko Haram. Des soldats nigérians avaient refusé à plusieurs reprises de combattre les islamistes dans leur fief du nord-est, se disant sous-équipés et sous-armés face à leurs adversaires. Des épouses de soldats avaient, elles aussi, organisé une manifestation devant une caserne pour dénoncer l'utilisation de leurs maris comme chair à canon face à des insurgés bien mieux armés.
RDC, procès sur l'assassinat de Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana. L'ONG congolaise La Voix des Sans-Voix dénonce les menaces dont font l'objet les avocats des parties civiles depuis la comparution du renseignant Kalala Kalao, ancien chauffeur du colonel Daniel Mukalai. Il faut dire que le colonel Mukalai est le principal accusé dans cette affaire. Rostem Anketa, le premier directeur exécutif adjoint de La Voix des Sans-Voix, exige du gouvernement la cessation immédiate de toutes ces menaces, ainsi que la prise de mesures sécuritaires appropriées pour ses avocats. On l'écoute au micro de Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Il y a eu des appels anonymes, des personnes qui les ont appelés, leur déclarant que « est-ce que vous allez, vous, avoir des parties civiles, vous irez jusqu'au bout en vous attaquant à l'État congolais ?» Il est certaines personnes qui ont menacé les avocats des parties civiles en leur disant qu'ils allaient subir le même sort que les autres. Entendez par là Floribert Chebeya et Fidel Bazana et Dadi. Qu'une enquête soit diligentée sur toutes ces menaces afin d'en identifier les auteurs, de les déférer devant la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Il faudra que cessent immédiatement toutes ces menaces contre des avocats des parties civiles pour assurer la sécurité des avocats des parties civiles. Et ces menaces pour nous prouvent une fois de plus que l'assassinat de Floribert et Fidel Bazana et Dadi a été ciblé et planifié et c'est bel et bien un crime d'État dont on cherche à étouffer la vérité.
Rostem Anketa de l'ONG Voix des Sans-Voix.
Nous restons en RDC. Les représentants de l'ONU, de l'Union africaine, des États-Unis, de l'Union européenne et de la Belgique pour la région des Grands Lacs souhaitent l'adoption de mesures urgentes pour la tenue d'élections transparentes et crédibles dans le pays. Ils le disent dans une déclaration commune. Eddie Isango.
Dans une déclaration commune publiée ce jeudi, les envoyés spéciaux et représentants internationaux soulignent la nécessité pour les autorités congolaises d'agir pour garantir un espace politique ouvert, la liberté des médias ainsi que la mise en place d'un cadre permettant une participation équitable de toutes les parties au processus électoral. Autre souci souligné dans la déclaration, le respect des délais constitutionnels mais aussi la réussite de la première transition démocratique dans le pays. Les représentants de la communauté internationale appellent par conséquent tous les acteurs politiques à œuvrer en vue de parvenir rapidement à un accord sur les conditions d'un processus crédible. Les élections provinciales et locales doivent se tenir en RDC à partir d'octobre, suivies de la présidentielle et des législatives en novembre 2016. Le climat est tendu dans le pays. L'opposition soupçonne le président Joseph Kabila de vouloir se maintenir à son poste au-delà de la fin de son mandat, alors que la Constitution lui impose d'abandonner ses fonctions fin 2016. M. Kabila a appelé au dialogue, mais une grande partie de l'opposition n'en veut pas.
RDC toujours, l'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda a rejeté ce jeudi les accusations portées contre lui par devant la Cour pénale internationale. Au cours de sa première intervention publique depuis sa reddition en 2013, il a affirmé n'être qu'un soldat, pas un criminel.
Centrafrique, nouvelle allégation de viol par un militaire français de la force Sangaris. Le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Zeid Raad Al Hussein, en visite à Bangui, a indiqué que les faits se seraient produits il y a un an environ. La victime présumée, probablement en fin d'adolescence au moment des faits allégués, a donné naissance à un enfant en avril, a précisé le haut commissaire. Selon l'AFP, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a immédiatement ordonné une enquête de commandement et saisira le parquet de Paris dès que des éléments lui auront été transmis. La France enquête déjà sur des accusations d'abus sexuels commis sur des enfants en Centrafrique entre décembre 2013 et juin 2014 qui visent 14 soldats français.
Un soldat malien a été tué et 7 autres blessés lors d'une attaque survenue mercredi dans une embuscade près de Diafarabé, dans la région de Mopti, a appris jeudi l'AFP de sources gouvernementales. Les auteurs de l'attaque n'étaient pas immédiatement identifiés.
Au Mali, près de 20 personnes sont mortes mercredi dans le naufrage d'une grande pirogue transportant des passagers et des marchandises sur le fleuve Niger, à proximité également de la ville de Mopti. Selon les premiers éléments de l'enquête, la pinasse était surchargée. Les passagers, paniqués par des vents violents, se sont regroupés d'un côté de la pirogue qui a alors chaviré.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, en Europe, les migrants qui espèrent voyager vers l'Ouest s'étaient massés aujourd'hui dans la principale gare de Budapest après sa réouverture par la police. Mais il semblait en début d'après-midi, Bagassi Koura, que c'était peine perdue puisque les responsables hongrois affirmaient qu'il n'y aurait pas de train en direction de l'Europe occidentale.
Oui, la police a libéré la gare de Keleti ce jeudi après avoir bloqué pendant 2 jours des centaines de migrants espérant se rendre en Allemagne où ils envisagent demander l'asile. Si les migrants ont été autorisés à rentrer dans la station, on ne sait pas pourquoi faire puisqu'ils n'ont pas la possibilité de voyager vers l'Ouest. Les autorités hongroises avaient autorisé lundi les voyages vers l'Ouest sans visa de l'Union européenne à partir de la gare de Keleti. Cela faisait suite à la décision de l'Allemagne d'accepter les demandes d'asile. Mais dès le lendemain, ces autorités ont commencé à refuser le passage aux personnes sans visa. Le premier ministre hongrois, Viktor Orban, a affirmé à Bruxelles que la question des migrants à la frontière hongroise n'est pas un problème européen, mais un problème allemand. L'Union européenne prévoit de tenir des pourparlers d'urgence sur la question des migrants le 14 septembre.
Le président du Guatemala, Otto Pérez, a démissionné. La nouvelle a provoqué une liesse populaire à Guatemala City. Otto Pérez, qui était accusé de corruption et risquait d'être destitué après avoir perdu son immunité, a comparu ce matin au tribunal. Les précisions de Dili Dico.
Cette décision survient quelques heures seulement après le lancement d'un mandat d'arrêt lancé par la justice contre M. Pérez, un général en retraite de 64 ans. Il avait été privé mardi de son immunité par un vote à l'unanimité du Parlement, une mesure inédite dans l'histoire du Guatemala et célébrée par une foule de citoyens selon l'AFP. Dès mardi soir, la justice lui avait interdit de sortir du territoire et mercredi, la Cour constitutionnelle a rejeté ses recours visant à faire suspendre la procédure. Dans ce dossier, son ancienne vice-présidente Roxana Baldetti, démissionnaire en mai, est également poursuivie et déjà en détention provisoire. Otto Pérez est accusé par le parquet et une commission de l'ONU contre l'impunité d'avoir dirigé un système de corruption au sein des douanes via lequel des fonctionnaires touchaient des pots de vin pour exonérer de taxes certaines importations. La procédure à son encontre survient à un moment de mobilisation populaire sans précédent dans ce pays pauvre d'Amérique centrale et à quelques jours seulement des élections prévues dimanche auxquelles M. Pérez ne pouvait se présenter, la Constitution n'autorisant qu'un seul mandat. C'est théoriquement son vice-président, Alejandro Maldonado, qui doit le remplacer.
L'accord sur le programme nucléaire de Téhéran pourrait faire l'objet d'un vote au Parlement iranien. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a donné son feu vert aujourd'hui à l'intervention des législateurs, disant qu'ils sont libres de voter selon leur conscience. À Washington, le Congrès se prépare à débattre de la question pour se prononcer avant le 17 septembre. Cependant, les républicains n'ont pas assez de voix au Sénat pour passer outre un veto présidentiel en cas de rejet de l'accord. En Israël, les critiques s'accumulent contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou à cause de son immense campagne contre l'accord.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco, ce soir avec Lucie Lamon.
À Lagos, le géant pétrolier Shell a annoncé mercredi la réouverture de deux oléoducs stratégiques dans le sud du Nigeria. Ceux-ci avaient été fermés après une tentative de vol de pétrole la semaine dernière. Les fuites causées par les vols et les sabotages représentent des pertes de revenus de 6 milliards de dollars par an pour le Nigeria. En Iran, selon le FMI, le retour de l'Iran sur le marché mondial ajoutera 1 million de barils par jour, faisant baisser les prix de 10 dollars par baril l'année prochaine. Une nouvelle baisse des prix qui pourrait être catastrophique pour le Nigeria, déjà très affecté par la situation actuelle. Les pays développés sont aussi affectés. Le Canada est entré en récession à la suite de l'effondrement des investissements des compagnies pétrolières et le licenciement de plus de 20 000 personnes dans une province pétrolière de l'Ouest, en Alberta. Au Swaziland, le ministre du Commerce a déclaré que les entreprises locales doivent examiner les possibilités d'utiliser les marchés voisins, notamment le Mozambique et l'Afrique du Sud. Il a souligné que la taille de ces deux pays combinés est proche de 75 millions de personnes. Le récent assassinat de Cécile Le Lion a attiré une vague d'aide chinoise à lutter contre le braconnage au Zimbabwe. Le gouvernement chinois a fait un don de 2,3 millions de dollars. Un groupe se faisant appeler la fondation de l'association Sinozim Wildlife a également fourni du matériel anti-braconnage équivalent à plus de 100 000 dollars.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Lucille.
Debout à côté de nous en studio, Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir cher Ruben, bonsoir à tous.
Mais tu es vraiment debout pour parler tout d'abord de football. On commence par le tout dernier classement FIFA.
Oui, l'Argentine est toujours en tête devant la Belgique et l'Allemagne. En ce qui concerne les équipes africaines, pas de changement pour l'Algérie qui reste 19e nation mondiale. La Côte d'Ivoire est 21e. Le Rwanda fait la meilleure progression africaine en partant de la 91e à la 78e place. Le Ghana vient à la 27e place. La Tunisie est 33e. Le Sénégal, 38e. Le Cameroun et le Congo sont 42e. Et l'Égypte est 49e. Recul cependant pour le Cap-Vert qui est 56e et la RDC, 65e. Qui chacun perd donc 6 places.
Il faut dire que la Côte d'Ivoire et l'Algérie devancent la France, qui n'est que 24e. C'est le Togo qui lève dès demain le rideau de la deuxième journée des qualifications de la CAN 2017.
Et la tâche des éperviers devrait être facile, hein, puisqu'ils affrontent le modeste Djibouti, ce qui leur permettra de prendre les commandes du groupe A devant la Tunisie, leur principal concurrent, qui avait écrasé Djibouti 8-1 et qui défie samedi le Libéria à Monrovia. Chez Roubaix, 52 nations disputent ces éliminatoires, réparties en 13 groupes de 4 équipes. Les premiers de chaque groupe décrocheront leur billet pour la CAN 2017, ainsi que les deux meilleurs deuxièmes, ainsi que le Gabon, qualifié d'office en qualité de pays organisateur.
Et quand vous assistez à un match de foot, soyez gentil, ne faites rien de malhonnête. 20 ans de prison pour 3 fans au Brésil. Pourquoi ?
Oui, les 3 accusés âgés de 23, 30 et 34 ans ont été condamnés mercredi soir pour le meurtre de Paulo Ricardo Gomes da Silva. Lui était âgé de 26 ans à l'issue d'un match de 2e division le 2 mai 2014, selon la presse brésilienne.
Et ils lui ont jeté une cuvette de toilette dessus, il faut le dire. Alors, Bagassi, on parle de cyclisme rapidement pour terminer.
Oui, c'est le Néerlandais Danny Van Poppel qui a remporté au sprint la 12e étape du Tour d'Espagne entre Escaldes, Angkor Dani en Andorre et Lleida. L'Italien Fabio Aru conserve son maillot rouge de leader.
Merci Bagassi-Coura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Claire Morin-Gibourg et chérubin Gaby Dorsil en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, le Sénégal.
Pour parler de la plainte portée contre le président Idriss Déby Itno, le président du Tchad, plainte déposée hier devant les chambres africaines extraordinaires basées à Dakar. L'avocat des plaignants, tous tchadiens, Maître Mbaye Jacques Ndiaye accuse M. Déby de torture et d'exécution de prisonniers dans les années 90. Le procès de son prédécesseur, Hissène Abré, doit reprendre lundi. Pour une réaction à cette plainte, Idriss Fall a joint Marcel Mendy, porte-parole du tribunal spécial africain à Dakar.
Oui, je confirme que Maître Mbaye Jacques Ndiaye a effectivement déposé une plainte contre le président Idriss Déby auprès des chambres africaines extraordinaires. Hier, exactement.
Et quelle sera la suite?
Écoutez, je pense qu'il est un peu prématuré de donner une indication à ce sujet. Ce qu'il faut dire simplement, c'est que aujourd'hui, l'affaire qui nous préoccupe, c'est, comme vous le savez, l'affaire Abré, qui va être jugée à partir de lundi prochain. Et l'autre chose aussi, c'est que une plainte nouvelle qui vient à peine d'être déposée ne peut faire l'objet d'un jugement sans au préalable connaître ce qu'on appelle en droit une instruction. Alors, je pense que la réponse est claire. Pour l'instant, c'est l'affaire Abré qui nous intéresse. Nous en tenons à cela.
Mais l'affaire Abré, l'instruction est déjà close, non?
Elle est close, tout à fait. Voilà pourquoi, d'ailleurs, le procès est ouvert. Parce qu'on ne peut pas faire de procès sans instruction.
Mais est-ce que la Chambre est habilitée à recevoir une plainte sur un chef d'État en exercice?
Non, je ne peux pas me prononcer à ce niveau. Ce que je peux simplement dire, c'est que l'avocat, Maître Mbaye Jacques, a effectivement déposé une plainte auprès des chambres africaines hier. Mais il est prématuré de dire quel sera le sort qui sera réservé à cette plainte.
Mais tout le monde sait que Idriss Déby était le chef de la police secrète de M. Hissène Abré. Peut-on juger l'un sans convoquer l'autre?
Là, vous me mettez dans l'impossibilité de vous répondre puisque ce n'est pas moi qui juge.
Marcel Mendy, porte-parole du tribunal spécial africain à Dakar.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Les ministres burundais de la Justice, de l'Intérieur, de la Défense nationale et de la Sécurité publique ont appelé les citoyens burundais à remettre les armes qui causent l'insécurité dans les quartiers contestataires. Ils demandent aux Burundais de se désolidariser de ces groupes armés qualifiés de criminels. Le point avec notre correspondant Christophe Kourounziza.
Pour la première fois, quatre ministres ont fait une conférence publique commune pour pointer du doigt les hommes armés qui causent l'insécurité dans les quartiers contestataires du troisième mandat. Dans un délai ne dépassant pas trois semaines, ces personnes armées qui tirent la nuit venue ont été priées de remettre leurs armes aux responsables en charge de la sécurité. Ainsi, ils ne seront pas condamnés par la justice burundaise. Le ministre de la Sécurité publique, Alain-Guillaume Boyoni, a indiqué que d'autres mesures seront prises pour garantir la sécurité des citadins.
Premièrement, c'est un travail synergique que l'on fait à travers les comités mixtes de sécurité humaine qui sont composés effectivement par les forces de l'ordre, l'administration, la justice et la population. Et cela effectivement se passe à travers les missions dévolue à chacune des composantes de ces commissions mixtes de sécurité. Il y a des missions qui sont dévolues à la défense, à la sécurité, il y a des missions qui sont dévolues à l'administration du territoire, à la justice. Il y a des déploiements qui sont faits, il y a des missions de full perquisition qui sont faites, il y a des missions de prévention qui sont faites par les forces de sécurité, les forces de défense en cas de besoin. Il y a d'autres mesures qui ne peuvent pas vous être communiquées. Ce sont des mesures qui se connaissent en fait après les faits.
Depuis les manifestations du mois d'avril dernier, des centaines de personnes ont été arrêtées et sont actuellement détenues dans les différentes prisons du Burundi. Mais parmi elles, il y aurait des innocents. Pour la ministre de la Justice, le moment venu et après étude des différents dossiers, les innocents seront libérés conformément à la loi. Laurentine Kanyana.
Sur cette question alors, je vous demanderai de patienter un peu. On est à l'œuvre, on va continuer à travailler sur ces dossiers et on va essayer de respecter les délais prescrits par la loi. Ce que je sais, c'est qu'il n'y aura personne qui sera retenu par la justice, qui sera condamné alors qu'il est vraiment innocent. L'innocence est prouvée par le juge, mais aussi, je vous ai dit que le ministère public instruit à charge et à décharge. Tout va passer par la procédure prescrite par la loi.
Depuis deux jours, l'insécurité est devenue grandissante dans certains quartiers de la ville. Des inouïs sont observés à Jabé, Nyakabiga et Moussaga. Cet ultimatum des autorités de Bujumbura est donné au moment où 4 personnes ont été tuées et des dizaines de personnes sont aujourd'hui entre les mains de la justice. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Actualité politique en Guinée. Ils sont au nombre de 8 les candidats en liste pour la présidentielle du 11 octobre. En tête de liste, bien sûr, le président sortant Alpha Condé. Il fera face à son formidable adversaire d'il y a 5 ans, El Hadj Seloud Alain Diallo, chef de file de l'opposition. Parmi les grands absents, notons le porte-parole de l'opposition Aboubacar Sylla et aussi Jean-Marie Doré, dont la candidature, selon certains analystes, était pratiquement assurée. Pour un éclairage sur le paysage électoral en Guinée, j'ai joint le juriste et analyste politique Mohamed Camara.
Vers le 10 septembre, le président de la République devrait intervenir encore en prenant cette fois-ci un autre décret pour ouvrir officiellement la campagne au titre de ces élections présidentielles. Pendant la période de campagne, chaque acteur en lice dispose d'un temps d'antenne au niveau des médias publics pour articuler un certain nombre d'argumentaires sur leur programme de société et puis sans que cela ne soit suivi de commentaires de la part des animateurs qui sont au niveau des médias publics. Voilà un peu comment les choses vont se passer. Et à la veille du scrutin, il n'y a pas de campagne. Le jour du scrutin, ça dure de 7h jusqu'à 18h et après, la CENI a 72h pour rendre public les résultats provisoires et après cela, on dépose les résultats provisoires au niveau de la Cour constitutionnelle, parce que quel que soit le caractère ou bien la pertinence des résultats donnés par la CENI, ces résultats restent provisoires. Donc il faut que la Cour constitutionnelle statue en dernier ressort et l'arrêt de la Cour constitutionnelle en la matière est ce type de recours.
Monsieur Camara, vous observez la situation politique à Conakry. Comment expliquer que le nombre de candidats soit si réduit comparativement à 2010.
L'enjeu politique est tel que le nombre de candidatures a été drastiquement rabaissé à 8 contre 24 en 2010. Cela se justifie par deux raisons. Premièrement, le cautionnement qui est trop élevé à 800 millions de francs guinéens, soit le double de ce qui était prévu en 2010. Mais deuxièmement, comme en 2010, il n'y avait pas de candidat qui avait postulé à sa propre succession, maintenant là, il y a un candidat à sa propre succession, il y a certains partis politiques qui, sachant bien qu'ils ne représentent pas assez de poids au niveau de l'électorat, donc on ne risque pas de verser 800 millions. Parce que si vous versez 800 millions et que vous perdiez, mais en perdant, vous n'avez même pas pu recueillir moins 5% du suffrage valablement exprimé, c'est que vous perdez le cautionnement. Et dès lors que le parti politique parvient à recueillir, malgré la défaite, 5% du suffrage valablement exprimé au moins, dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs, on rembourse justement son argent. Donc voilà un peu le climat tel que ça se propose présentement ici. L'enjeu est capital parce que la classe politique est un peu vieillissante. Donc chacun veut jouer son dernier va-tout et puis c'est pourquoi il y a un regain d'intérêt. C'est une occasion d'inviter les citoyens à exiger des partis politiques une communication soigneusement élaborée sur les programmes de société et puis que tous les acteurs applique l'accord qui a été signé, mouvance et opposition, de placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout et exiger d'eux qu'ils ne cèdent pas sur la moindre de leurs revendications.
Le juriste et analyste politique guinéen Mohamed Camara nous parlait de Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou. Le Bénin fait partie des pays de la sous-région ouest africaine qui, sous l'impulsion de la libéralisation des ondes, enregistre un nombre impressionnant de journalistes. Pour la plupart, à peine sortis de l'université ou diplômés, ils sont à la recherche d'un emploi. Leurs conditions de vie et de travail ne sont pas des meilleures, surtout ceux de la presse privée qui doivent fournir plus d'efforts pour un salaire de misère. Quelles sont les réalités du journaliste béninois? La réponse à travers ce reportage de notre correspondante Ginette Fleur à Dandé.
Depuis la libéralisation de l'espace audiovisuel, plusieurs chaînes de télé et de stations de radio ont été créées, offrant ainsi une panoplie de choix aux consommateurs. Cela a aussi favorisé l'entrée dans le métier de journaliste de plusieurs jeunes sortis fraîchement des écoles de communication ou carrément des diplômés en quête d'emploi et prenant le journalisme comme un tremplin. Pour la plupart, sans contrat et sans aucune sécurité sociale, ils sont surexploités par certains patrons de presse.
Le journaliste béninois dans la presse privée ne vit véritablement pas bien. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Nous avons des patrons de presse qui pensent d'abord à leur poche avant de penser à ceux qui véritablement leur permettent d'avoir un nom. Rares sont ceux qui peuvent dire qu'ils tiennent véritablement le coup. Il faut forcément pactiser avec le diable, c'est-à-dire se mettre à la disposition d'un politique, se mettre à la disposition d'une association. Et dans ce cas précis, vous ne faites plus le journalisme puisque des comportements vous sont dictés de l'autre côté. Et c'est par rapport à ces comportements qu'on vous dicte que vous écrivez vos articles ou que vous publiez ou que vous allez à l'antenne pour dire si, dire ça.
Le porte-parole de l'Observatoire pour la déontologie et l'éthique dans les médias dénonce ici le traitement fait aux journalistes qui, pour s'assurer un certain train de vie, sont obligés d'enfreindre les règles établies par les conventions collectives qui régissent le métier.
Le plancher, c'est 120 000 francs. Pour un journaliste qui vit à Cotonou ou dans les centres urbains, mais curieusement, malgré ces chiffres qui sont dérisoires, la majorité des patrons de presse, des employeurs dans le métier ne payent pas. Il y a beaucoup de journalistes qui sont payés presque à 6 mois ou à 10 mois sur l'année. Vous voyez, donc ça fait que le journaliste béninois, notamment dans la presse de service privé, vit mal. C'est ce qui fait d'ailleurs que beaucoup sont astreints à la corruption, entre griffes d'une certaine envie à rançonner.
Aussi catastrophique que soit la situation, il est important de trouver des solutions afin que le journaliste puisse exercer librement et ceci dans la vérité de sa profession.
Il faudra véritablement que l'on pense donner une licence à ceux qui sont en mesure d'avoir les moyens pour conduire cette licence-là à bon port. N'importe qui se lève aujourd'hui, il peut avoir une radio. N'importe qui se lève, il peut avoir une télévision. Il va falloir que cette façon de faire-là soit réglementée. Sinon, si c'est n'importe quel mangeur d'escargot qui va se lever et créer une radio, eh bien, ne vous attendez à rien du tout.
Ils sont nombreux, ces jeunes béninois passionnés par le journalisme. Et pour ne pas mettre du sable dans le moteur d'une telle passion, les associations fêtières et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication doivent œuvrer pour redorer le blason de la presse privée, encore à la recherche de ses marques. De Cotonou, Ginette Fleur à Dandé pour VO Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Golf FM, Cotonou, 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Dernière info littéraire avant de nous quitter, les jurys du Les jurés du prix Goncourt ont dévoilé la liste des 15 romans en lice pour la rentrée. Et bonne nouvelle, Gabi, comme l'a décompté nos confrères de Jeune Afrique, parmi les 15 ouvrages, pas moins de 6 sont écrits par des Africains ou mettent en scène un récit se déroulant sur le continent.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci Lionel Gaïma et Tian Wang à la technique. Présentation Claire Morin-Gibour et Chérubin Dorsil. Ainsi va Le Monde aujourd'hui.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.